De mon âme, délivre-la. J'aimerais que nous ouvrions la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Au psaume 69e. Et le verset 19e. Approche-toi de mon âme, délivre-la. Dans le psaume 142e, verset 1er, cantique de David lorsqu'il était dans la caverne, prière. Et le verset 8e, tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Et puis le psaume 66e, verset 16e. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Amen. Approche-toi de mon âme, délivre-la. Et puis, notre dernière lecture, vous tous. Il s'adresse à celles et à ceux qui l'entourent. Vous tous qui craignez l'Éternel, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Nous le savons, l'être humain, corps, âme, esprit. Notre corps est comme l'enveloppe, et à l'intérieur de l'enveloppe, il y a notre âme et notre esprit. Ce qu'il a fait à mon âme. Et si chacun d'entre nous voulait raconter ce que Dieu a fait à notre âme. Non point depuis que nous sommes convertis, mais simplement depuis lundi matin. En une semaine, Dieu a fait beaucoup de choses dans votre vie et a fait beaucoup de choses dans ma vie. Racontez ce qu'il a fait à mon âme. Approche-toi de mon âme, délivre-la. Et dans notre seconde lecture, ce David qui est dans la caverne, et au fond de la caverne, la fraîcheur, et puis son ennemi, le roi Saül, apparaît et vient aussi dans la caverne pour prendre du repos. Il voit aucune issue et intérieurement, c'est comme il réalise, son âme est prisonnière. Ce qui veut dire que David a ressenti intérieurement, il se sent prisonnier et tire mon âme de sa prison. C'est-à-dire tire mon âme de ce que je redoute, de ce que je crains, de la peur, de l'angoisse, du stress. Tire mon âme de sa prison. Et donc, approche-toi de mon âme, délivre-la. C'est une prière de David qui demande à Dieu. Ô Dieu, car les eaux menacent ma vie, j'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir, je suis tombé dans un gouffre. L'on chantait en son temps que nous étions dans la boue du péché et que nous étions là en train de nous enfoncer. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce chant, mais c'était l'expression aussi de notre foi. Nous étions conscients que nous étions tombés dans la boue et nous ne pouvions point nous en sortir. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette petite fille colombienne qui a été vue de par le monde entier. Les projecteurs ont été sur elle. Elle est morte à l'âge de 13 ans le 16 novembre 1985. Et je me suis posé la question, en voyant son visage, sa souffrance, l'impuissance de celles et ceux qui l'entouraient, et je me suis dit, est-ce possible ? Cette petite, elle s'appelait Homera Sanchez. Elle habitait la ville d'Armero. Elle est morte sous les yeux du monde entier. Elle a été victime d'une coulée de boue provoquée par l'éruption d'un volcan. Et là, l'eau, la boue, les choses coincées. La ville a été aussi pris par cette boue volcanique et je crois plus de 22 000 personnes sont décédées. Cette coulée de boue volcanique qui a entraîné. Et cette petite, ses jambes étaient coincées. Et c'était un photographe français qui l'a pris en photo, qui est allé jusqu'à Bogota pour chercher la pompe. À cause de l'impuissance des hommes, des femmes, qui auraient dû faire quelque chose, mais personne ne pouvait rien faire. Les hommes et les femmes étaient autour d'elle, et son courage, sa dignité, les personnes la soutenaient par la prière et elle est morte épuisée lorsque, semble-t-il, le photographe est arrivé une demi-heure ou une heure trop tard. Elle est morte en chantant après 13 ans. quelque chose qui nous a marqué les uns les autres parce que la pompe n'arrivait pas. Et la pompe, quand elle est arrivée, il était trop tard. Quand je sombrais dans la boue du péché, Christ m'a délivré. Christ m'a sauvé. Et je crois que le psalmiste, dans le psaume 73e, verset 28e, pouvait dire « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Et vous connaissez la crise spirituelle qu'il a traversée. Il ne nous cache pas ce qu'il vit. Son âme était comme prisonnière intérieurement. Je crois qu'il faut beaucoup de courage pour ouvrir son cœur. Et quand on ouvre son cœur, ça dépend à qui on va l'ouvrir. Un jour, quelqu'un m'a dit « J'ai commencé à ouvrir mon cœur » et la plaie devenue plus profonde parce que j'avais l'impression qu'avec le poignard, on allait encore plus profondément. À qui va donc ouvrir notre cœur? Nous aimons la Bible. Mais si la Bible avait été écrite par vous et par moi, tout n'aurait pas été écrit. Nous aurions dit, il faut cacher telle situation, il faut cacher tel problème, ça va choquer ça, ça va choquer un tel, ça va choquer un autre. On n'aurait pas tout écrit, mais Dieu a voulu que tout soit écrit. Aussi bien pour les enfants, aussi bien pour les ados, aussi bien pour les jeunes gens, jeunes filles, aussi bien pour les adultes, aussi bien pour les personnes âgées. Dieu s'est adressé à tous. Et nous voyons que ces hommes ont ouvert leur cœur. Et un jour, intérieurement, il y a tellement de pression que notre cœur va s'ouvrir. Le psalmiste dit « Mon pied était sur le point de glisser. J'étais sur le point de chuter. » J'étais sur le point de vaciller dans ma foi. Parce qu'il a dit, j'ai commencé à regarder le monde extérieur. Le monde extérieur, j'ai eu l'impression que les méchants ne faisaient que de prospérer. Ils n'avaient aucun souci, aucune difficulté. Tout leur réussissait. Et combien parmi le peuple de Dieu se détournent de Dieu pour suivre et les suivre dans leur marche. Les méchants, tout ce qu'ils font, leur réussissent. Et lui, il dit intérieurement, eh bien, ça va pas. Parce que j'ai mes propres problèmes, mes propres difficultés. Et quand je les regarde, je dis, ils sont plus heureux que moi. Quand il va jusqu'à dire, intérieurement, je suis persécuté. Extérieurement, on me maltraite. Mais il dit, quand j'ai réfléchi, parce que l'homme est amené à la réflexion, quand j'ai réfléchi intérieurement sur ma situation, sur ma condition, chaque jour, mon châtiment, chaque jour, mon épreuve, chaque jour, mes difficultés, ça m'a amené à l'interrogation. Quand j'ai regardé le monde extérieur, et le monde extérieur, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à regarder à des milliers de kilomètres. Il suffit de regarder la résidence où l'on habite. Il suffit de regarder la zone pavillonnaire où l'on habite. Et on se dit, mais les gens sont plus heureux que moi. ils n'ont pas la foi, ils prospèrent, ils semblent heureux. Elle et moi, je suis malheureux. Lui, j'ai réfléchi là-dessus. Vous savez, quand on commence à réfléchir sur sa propre situation, il nous faut beaucoup de délicatesse, sinon nous allons risquer de traverser une crise spirituelle et nous allons sentir le vent venir et nous risquons d'être déstabilisés. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, il y a un moment, j'ai cessé de réfléchir. Pourquoi j'ai cessé de réfléchir? Eh bien, parce que j'ai décidé, comme à ma réflexion, je n'avais pas de lumière, eh bien, j'ai décidé d'entrer dans les sanctuaires de Dieu. Et c'est là, le psalmiste, il dit, j'ai arrêté de réfléchir. La difficulté, elle était grande. Mais je suis rentré dans les sanctuaires de Dieu. Et quand on rentre dans les sanctuaires de Dieu, il nous faut faire silence. Le silence s'impose selon les lieux. Un jour, je visitais un champ missionnaire. Il y avait eu un génocide, il y avait eu un dictateur. Et même porter des lunettes était considéré comme être intellectuel. Donc c'était un homme qui dominait. Et j'ai visité l'ancien lycée français. Et il est resté tel que, et dans ce lycée français, il y a eu toutes sortes de tortures. C'était abominable. Et quand j'ai visité, j'ai vu tout ce que je voyais. Dès l'entrée, le silence s'imposait. Vous saisissez, il y a des endroits où le silence s'impose. Il y a des situations où le silence s'impose. Et quand on rentre dans la présence de Dieu, on ne vient pas rencontrer un ami, on rencontre le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et donc le silence s'impose. Parce que Dieu, par sa présence, nous impose le silence. Et donc, quand on est dans le silence, on commence à prendre conscience non seulement de l'existence de Dieu, du Créateur et de celui qui règne dans les cieux et sur la terre et qui est l'intelligence par excellence. Il n'y a personne d'autre que lui dans cette intelligence. Son silence est là. Dieu sait tout. Il sait tout. On ne peut rien lui cacher. Il sait tout. Il sait tout. Et à partir de là, eh bien, quand il a pénétrer dans la présence, la parole de Dieu nous dit que quand il a réfléchi pour être éclairé, mais dans la présence de Dieu, on est éclairé par la lumière de Dieu, on est éclairé par Dieu lui-même. Et à partir de là, il a vu le sort des méchants. Il a vu le sort des incroyants. Et en ressortant, il n'est plus le même. Mais quand il regarde sa propre situation, quand il regarde le sort du peuple de Dieu, le sort des méchants, il dit « J'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. J'étais insensé. » Mais quand il sort, il voit, il n'est plus le même, mais les choses sont toujours les mêmes, extérieurement, mais il les voit avec d'autres yeux. Il remarque que le sort des méchants est quelque chose de terrible. Et il dit, pour conclure, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur afin de raconter toutes tes œuvres. » Quand la Bible nous parle d'un homme, il dit « Pour moi, me prosterner dans ton temple. » Il réalise ce qu'est la présence de Dieu. Il réalise qu'il est dans le temple de Dieu. Il réalise les grâces et les bénédictions du Seigneur. Il est vrai que Dieu a dit, que Jésus a dit, Dieu n'habite plus dans le temple fait de main d'homme. Mais il veut habiter dans le cœur des hommes et des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles, des enfants. Il veut habiter à l'intérieur du cœur. Un jour, un couple, je crois musulman, a demandé à mon épouse de visiter cette maison de prière. Et mon épouse a été la guide, a montré tout, tous les domaines, tout le lieu, et ça fait quand même de la surface. Et à la fin de cette visite, la réponse a été celle-ci: on ne peut pas définir, mais il y a une présence qui est sainte ici. Une présence qui est sainte. Dans la maison de prière, on ne peut pas faire tout ce que l'on veut. Le respect de Dieu s'impose. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un dimanche matin, j'ai eu cette révélation de la gloire de Dieu qui était au-dessus de nous. La gloire de Dieu. Et j'ai dit que la gloire de Dieu était là d'une manière particulière et que la gloire de Dieu nous visitait. Puis, ayant dit cela, le soir vers 18 heures après la réunion, une sœur m'a dit « J'ai un ulcère à la jambe. » J'ai souffert toute la nuit. Je suis venu au culte. Et vu son âge, personne très âgée, elle aurait pu rester chez elle quand on ne dort pas la nuit. Mais elle dit, au moment où vous avez prononcé et dit cette révélation, j'ai senti la visitation de Dieu. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai retiré ce qu'il fallait regarder et j'ai vu ma plaie. La plaie était refermée. La sœur, elle est là cet après-midi. Elle peut confirmer. Elle peut lever même sa main. pouvez lever votre main. Voilà, Dieu soit béni. Les pierres ne sont pas saintes, mais ce que nous formons, l'Église de Jésus, ce sont des pierres vivantes, elles sont rachetées par le Seigneur et nous sommes sanctifiés par le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes lavés, purifiés. Ce lieu, cette maison de prière est faite pour accueillir l'Église. Et l'Église, ce sont des pierres vivantes, des pécheurs rachetés par grâce. Et c'est là où Dieu aussi s'impose. Pourquoi nous maintenons ce respect? Maintes et maintes fois, nous a demandé de louer cette maison de prière. Nous avons toujours refusé, parce que nous croyons que dans une maison de prière, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Et bien aimé, dans la foi, Dieu est celui qui parle au milieu de nous. Il parle par le moyen des chants que nous chantons, parce que les paroles nous parlent, nous bouleversent. Un dimanche, nous avons chanté il y a longtemps, « Dieu est là ». Et il y avait une femme jeune qui avait été incarcérée dans un pays étranger à cause de manque de papier. Elle a attrapé une maladie, la tuberculose. Puis elle s'est retrouvée là dans cette maison de prière. Et quand on a chanté « Dieu est là, Jésus est là », elle a dit « Mais si Dieu est là, Jésus est là, il va me guérir. » Et cette femme a été guérie par le Seigneur. Elle avait un traitement. Et quand elle allait chez son docteur pour le renouvellement de l'ordonnance, le docteur a fait faire ce qu'il fallait. Mais il n'y a plus rien, vous êtes guéri. C'est merveilleux. Est-ce que nous sommes conscients que Dieu parle? Est-ce que nous sommes conscients aussi que par les dons spirituels, Dieu nous parle? Est-ce que nous sommes conscients que la parole de Dieu, elle parle? Est-ce que nous sommes conscients que Dieu est celui qui peut et qui veut bouleverser notre vie? Quand il est ressorti, pour moi m'approcher, pour moi me prosterner dans son Saint-Temple. Mais direz-vous, chez moi, je peux me prosterner dans ma chambre, je peux me recueillir dans mon bureau, je peux me recueillir. Mais bien sûr, il faut le faire. Il faut lire votre Bible chez vous. Il faut lire cette belle bibliothèque de 66 livres. Vous pouvez vous procurer recueil de chants et chanter pour vous. Chanter pour Dieu. Vous pouvez vous faire du bien. Il faut le faire. Si vous jouez du piano, faites-le aussi. Si vous jouez de la guitare, faites. Si vous jouez de la batterie, faites aussi. C'est extraordinaire, quel que soit l'instrument. Le lieu où nous sommes est important, mais ensemble, c'est un moment de ressourcement, de grâce, de bénédiction. Quand le psalmiste, au psaume 3, verset 6e, dit « Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Me direz-vous, quoi de plus? Ce soir, je vais me coucher, je vais m'endormir, et je vais me réveiller. Ah oui. Mais il ajoute, l'Éternel est mon soutien. L'Éternel est mon appui. C'est-à-dire, quand je me réveille Et dès que je me réveille, l'Éternel est mon soutien. Ça, c'est formidable. Et si vous regardez le psaume 3e, la Bible nous dit que le problème personnel qu'il avait, c'est qu'Absalom, son fils, était en pleine révolte avec son père. Il avait dû fuir devant son fils. Et c'est là quelque chose de terrible. Pourquoi ? Parce que Absalom avait préparé un coup d'État. Et Absalom, il avait dû fuir devant son fils. Il avait quitté le palais. Il avait quitté sa demeure. Il avait quitté aussi toute cette vie. Et là, on le voit marchant, pleurant. On voit même son conseiller, Achitophel, qui s'était détourné de David. Et quand on consultait Achitophel, ça avait autant de valeur comme si on avait consulté Dieu. Ce qui veut dire que son bras droit s'était détourné de lui. Et quand il apprend qu'Achitophel donne les conseils à Absalom, David, quand il apprend ça, il est bouleversé. Il dit à Dieu, anéanti les projets d'Absalom. Et il a terminé sa vie tristement à Achitophel, puisque la Bible nous montre qu'il s'est suicidé, qu'il a mis fin à ses jours. Bien sûr, il y avait une rancune très certainement à l'égard de David, parce que Bathsheba, c'était la petite fille de David, d'Achitophel. Et vous savez très bien ce que David avait fait avec Bathsheba. Vous le savez comme moi. Et ça, il avait été contrarié. Et nous aurions tous été aussi contrariés. Il y a des choses dans nos cœurs qui restent des blessures pendant de longues et longues années. Et Achitophel est mort, tristement, après avoir été l'homme dont il fut. Et puis on sait comment terminer Absalom, pris dans la tête du térébin, sa tête, et il est mort. David fut ramené dans son palais, mais là, on le voit dans sa chambre. Il marche de long en large. Il n'applaudit pas. Il ne dit pas à Dieu, merci de m'avoir délivré de mon ennemi. Tu vois, ce petit gars, cet homme insensé que j'ai mis au monde. Il pleure. Il dit, mon fils, pourquoi ne suis-je pas mort à ta place ? Il avait cet amour. On a l'amour pour nos enfants. On a l'amour pour nos petits-enfants. On a l'amour pour notre époux, notre épouse. On a l'amour pour tout ce monde-là. On a l'amour aussi pour les hommes et les femmes. Quelle que soit votre difficulté, dès votre réveil, puissiez-vous dire « L'Éternel est mon soutien ». L'Éternel va devenir mon soutien. Je me réveille, mais l'Éternel est mon soutien. L'Éternel est celui qui me donne sa grâce et sa bénédiction. Oui, quand il dit au psaume 4e, verset 9e, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » S'endormir en paix. Et vous pourrez ce soir vous endormir en paix. S'il n'y a pas la paix, cette paix avec vous-même, cette paix avec Dieu, cette paix avec Jésus-Christ, qui, par le moyen de son sacrifice, nous permet de recevoir la paix de Dieu. Être en paix avec soi-même, en paix avec Dieu, en paix avec son prochain, en paix avec son frère, sa sœur, être en paix. Je m'endors en paix. Ah, quelle grâce, quelle bénédiction, pouvoir s'endormir en paix. Oui, Dieu sait relever nos têtes, il sait nous redonner ce dont nous avons besoin. Et là, il nous faut la prière. Et Dieu seul sait, quand on prie, comment il va changer les situations, comment il va guérir nos plaies, comment il va sortir notre âme prisonnière, comment il va nous faire grâce, il va nous pardonner. C'était quelque chose d'extraordinaire. Comme ce matin, un chant, tu me serres dans tes bras d'amour, tu me prends dans tes bras d'amour. Et ça m'a ramené des décennies en arrière, où j'ai pu venir vers le Seigneur avec mon cœur blessé et blessant aussi les autres. Et dans son amour, Dieu m'a pardonné, m'a pris dans ses bras d'amour. Il m'a purifié, il m'a sanctifié, il a fait de moi une nouvelle créature. Et la marche avec Dieu n'a plus jamais été la même. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne sa grâce, qu'il vous donne sa bénédiction. Oh, approche-toi de mon âme, délivre-la. Demandez à Dieu de s'approcher de vous. Demandez à Dieu de s'approcher et de vous délivrer. Et il le fera. Que son nom soit glorifié, remercié, adoré à tout jamais. Nous prions le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Seigneur notre Père, te remercions d'avoir porté un regard favorable sur l'humanité. Tu ne fais de différence. Chaque homme, chaque femme a été créé par toi et tu fais grâce, Seigneur. Tu ne fais aucune distinction. Nous te prions parce que nous approcher de toi dans la prière, c'est quelque chose de merveilleux. Fais-nous grâce dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.